Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Clap Cinéma du mois d'octobre avec Jean-Max Méjean. Bonjour Jean-Max.
Bonjour Sylviane et bonjour à nos auditeurs.
Donc voilà, c'est le Clap Cinéma de Jean-Max du mois d'octobre. Vous nous aviez parlé en septembre des écoles de cinéma. La rentrée est déjà bien faite. Et vous allez nous parler de films, soit qui sont déjà sortis, ou qui vont sortir et que de toute façon vous recommandez.
Voilà, ou qui vont sortir jusqu'en novembre. Alors, y en a certains qui sont toujours à l'affiche en octobre, pour la bonne raison que ce sont des films importants. Alors, le premier, c'est la trilogie d'Oslo. Donc ça, c'était une découverte à partir du mois de, je crois, c'est une trilogie, donc trois films qui sont sortis, je crois, à partir de... Début juillet, en salle, oui.
Alors, c'est
Dag Johan Haugerud, et c'est trois films qui parlent, en fait, qui parlent d'amour. Voilà. Mmh. Alors, les titres de ces trois films, c'est Rêve, Amour, Désir. Alors.
Vous les avez vus ?
Je les ai vus. J'avoue que ce sont des titres courts, et j'avoue que j'ai parfois. Tendance à confondre. Je ne pourrais pas vous dire rêve, ça raconte ça, amour, voilà.
Alors, pour vous, c'est un tout, en fait.
C'est un tout, voilà. Pour moi, il aurait dû sortir, mais enfin, ça aurait été trop long parce que ça aurait été 7h30 de film. Mais il y en a qui n'ont pas peur. Y en a deux qui m'ont marqué, voilà. C'est l'histoire d'un. Alors, il y en a un. Alors, je crois que celui-ci, c'est Désir. Je crois que c'est. Monsieur qui est marié avec une femme, hein, faut le préciser maintenant de nos jours, et qui est ramoneur, voilà. Et un jour, il était appelé pour ramoner une cheminée, et il a le propriétaire ou celui qui habite dans l'appartement lui propose, comment on peut dire, la botte, quoi. Ouais. Il lui dit, vous me plaisez, vous avez pas. Alors lui, il est scandalisé, il dit non, mais je suis pas homo. Il part et il revient et il fait. Et là, quand il rentre chez lui, il raconte à sa femme. Et là, ça casse complètement.
Ouais, il y a quelque chose. La relation.
Qui, ouais. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. C'est le dit, le non-dit. Mmh. Quand on a du désir, pourquoi le dire? À qui le dire? Voilà, ça travaille là-dessus. C'est pas du tout. D'ailleurs, on ne voit absolument rien.
Mais ça peut faire réfléchir chacun d'entre nous, en fait. Comment on réagirait si on avait des propositions.
Alors,
ce sont
des choses qui n'arrivent pas tous les jours. Mais justement, c'est parce que la situation est tellement banale, quoi. Parce que, voilà, c'est quelqu'un qui fait un métier un peu spécial quand même, ramoneur, et qui est amené, voilà. Il se confie d'ailleurs à son meilleur ami, et il se confie, évidemment, il croit bien faire en se confiant à sa femme. Et l'autre, je crois que c'est Amour. Alors là, c'est une jeune fille, une élève, qui est fascinée par une de ses professeurs. Mmh. Elle est fascinée au point qu'on imagine qu'elles ont... Alors, elles n'ont pas une relation sexuelle, elles ont une... Ben, je ne crois pas... c'est pas dit non plus. Hein? Ils ont une relation très, 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 très proche. Et bon, je ne vais pas vous raconter le film, mais je vous conseille de le voir parce que, à la fin, lorsque cette professeure lui déclare qu'elle n'est pas du tout homosexuelle et qu'elle n'a pas envie d'avoir de relation avec elle, vous voyez, ça travaille beaucoup là-dessus. La mère, quand elle va la voir, cette professeure lui dit « Mais à aucun moment, vous ne vous êtes rendu compte qu'elle avait du désir pour vous ?» Voilà. Non, ça pose quand même des
beaucoup
bonnes questions. Alors c'est pas
surtout pour l'adolescence.
Mais alors je veux pas avoir l'air toujours d'être comme les professeurs, de dire. Mais c'est pas du. Bon, comment dire. C'est peut-être pas du ce qu'on appelle du grand cinéma, quoi. Ça va pas. Ça modifie pas complètement notre façon de voir le monde ou la vie ou l'art en général, mais c'est des films qui
interrogent,
voilà,
qui interpellent,
voilà, c'est le mot, merci.
Donc la trilogie de
voilà,
vous recommandez. Ensuite.
Alors, ensuite, il y a... Celle-là, je l'attendais au tournant. C'est Julia Ducournau avec Alpha.
Ouais.
Alors, Julia Ducournau, elle a eu la Palme d'Or hein, avec Titane. Mm-hmm. C'est un film que j'avais vu à Cannes, d'ailleurs. J'avais failli vomir. Mais je m'étais dit, il faut que tu fasses ton travail consciencieusement. Tu es là, tu as sué pour avoir cette place. Je suis restée jusqu'au bout. Mais enfin, franchement, bon. Palme d'Or, bon, bref. Et là, alors...
Elle vous a étonné.
Elle m'a un peu dégoûté quand même, parce que en plus j'ai pas très bien compris ce scénario. Donc là je parle de Titane.
Non, moi je parlais de celui que vous vouliez de voir, celui que vous attendiez.
Non, il m'a pas étonné. Non, c'est toujours un peu dans la même veine. Moi ce que je reproche, c'est, alors il y avait, on était, je dirais pas où je l'ai vu, mais je l'ai vu à Nîmes, hein, et on était très peu nombreux dans la salle. Moi je suis très étonné parce que je me dis, bon, quand même cette femme a eu la Palme d'Or, son film Titane avait fait des entrées. Donc, je me dis peut-être... Alors, c'est en plein milieu de l'été. Hein, oui. Vous allez me dire, ils préfèrent aller peut-être à la plage.
Oui, j'ai vu que la fréquentation des cinémas est en baisse baissé, hein, en juillet.
Il faisait tellement chaud, tellement beau.
Oui, je crois que j'ai lu 15 à 19% de moins de fréquentation.
On peut aller pour la clim aussi, ça, c'est pas interdit. Hein. Mais il y a quand même des salles qui ne sont pas climatisées. Donc, en fait, ce Alpha, moi, je me dis, mais cette fille, elle est jeune, elle est belle. Pourquoi faire des films aussi flippants, voilà.
Ouais. Hein, c'est l'angoisse de nos générations.
Alors là, c'est qu'elle traite de plein fouet sur la toxicomanie, les virus. Alors évidemment, on pense au sida, mais on pense évidemment à ce Covid, là.
Oui, mais on dit tellement que les générations actuelles sont angoissées qu'elle traduit peut-être. Elle peut peut-être pas penser à autre chose, je ne sais pas.
Voilà, mais le problème, c'est...
Il n'y a aucun espoir.
Voilà, mais je me dis, est-ce que ce n'est pas un fonds de commerce qu'elle veut exploiter?
Pourquoi?
Que non, mais attention, moi, je n'ai pas...
Non, ce n'est pas un jugement.
Je ne dis pas non plus qu'on fasse que des petits, des Walt Disney ou des comédies musicales. Avec,
reste à savoir quel est le rôle du cinéma. Est-ce que c'est de faire réfléchir ou de divertir?
Ça fait... Ben, oui, alors, après, il y avait toute la génération des années 60 sur les films, sur l'incommunicabilité, Antonioni, etc., même Fellini. Mais c'était beaucoup plus ontologique, métaphysique, c'était beaucoup plus existentiel, quoi, voilà.
Ouais.
Là,
oui,
on a un peu l'impression que...
C'est alarmiste.
Alarmiste et en même temps, un peu que ça utilise les grosses ficelles des films d'épouvante, quoi.
Ouais.
Mais sans le dire.
Sans l'époque.
Voilà, sans...
Alors, je vous propose justement, pour casser un peu cette ambiance anxiogène, vous avez choisi comme première chanson Annie Cordy, Bonbon, Caramel et Chocolat.
Ça ne va pas du tout avec...
Ça ne va pas du tout, mais c'est justement pour dire, est-ce que le cinéma doit divertir? Mais c'est surtout pour faire un petit rappel du passé, parce que ces jeunes, ils n'ont pas connu ces ouvreuses avec leur corbeille.
Leur corbeille qui passait et qui vendait les chocolats glacés.
Donc voilà, on se fait une petite pause non anxiogène.
Non anxiogène.
Avec Annie Cordy.
Un jour de la Martinique, nique, nique, tout pays. Une fille sympathique, tic, tic, vint ici. Avec le charme et la grâce, un peu lasse de là-bas. Elle se fit une petite place comme ouvreuse au cinéma. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. Souriante et dynamique, mique, mique, c'est une ouïe. Les pourboires fantastiques, tic, tic, qu'elle se fit. La voilà propriétaire d'un magnifique cinéma. Pour faire marcher les affaires, tous les jours elle remet ça. Devant les bonbons, caramel, esquimau, chocolat, pastille de menthe.
Bon caramel, esquimau, chocolat.
Mademoiselle.
Oui, j'arrive.
Cette histoire est authentique, tic, tic, voyez-vous. C'est un petit cas qui pique, 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 voilà tout. Car en tout état de cause, ici-bas pour aller loin, il ne faut pas faire grand-chose pourvu qu'on le fasse bien. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat.
Alors sur Radio Alliance Plus, après beaucoup d'angoisse, on a eu le divertissement d'Annie Cordy, qui était aussi une très bonne actrice. Hein, on la connaît comme chanteuse.
Oui, elle oui, était elle a remarquable.
Dans
tous les registres. Et puis, en plus, elle était très sympathique. Moi, je l'ai approchée. Ouais. Et c'était une femme délicieuse, vraiment.
Alors, vous avez parlé que de deux films.
Oui,
vous vouliez en présenter 10.
Oui, alors je vais aller un peu plus vite. Alors, un film qui est sorti aussi cet été, on se demande bien pourquoi, c'est le Grand Prix du Festival de Cannes, c'est Valeurs sentimentales de Joachim Trier. On en a parlé beaucoup. Moi, je le recommande, évidemment. Il est un peu long quand même, 2h16, je crois. Et pour moi, alors... Vu que c'est un film qui vient du Nord aussi, il y a une attaque de ces films qui viennent d'Oslo. Voilà. Et pour moi, c'est un peu un hommage à Ingmar Bergman. Ouais. Parce que c'est l'histoire c'est l'histoire de deux sœurs et d'un père qui est cinéaste. Alors, c'est tout en demi-teinte. Le montage est... parfait, mais très étonnant. Donc, je le recommande pour cette raison.
Pour nos étudiants en cinéma.
Pour les étudiants en cinéma, oui. S'ils veulent faire un film à la fois bergmanien et allénien, Woody Allen, allez voir Valeurs sentimentales, c'est très beau. Alors après, il y a un autre petit film là, qui est sorti aussi, toujours l'été, mais bon, moi je l'ai vu, j'ai adoré. C'est Amélie et la métaphysique des tubes. Alors c'est Maëlys Valade, elles sont deux, et Liane Chauhan.
Ah, je m'étais dit, il faut que j'y aille parce que j'adore Amélie Nothomb et la métaphysique des tubes surtout.
C'est très fidèle à Amélie Nothomb. D'ailleurs, je crois qu'elle a prêté sa voix pour la voix off. Et ça raconte son enfance au Japon. Et c'est complètement, comme toujours avec Amélie Nothomb, c'est complètement décalé. C'est
brillant.
Étrange.
C'est brillant.
Et c'est brillant. Et les dessins sont magnifiques. L'animation est très belle. Et on apprend que le premier mot qu'elle a appris... En général, c'est quoi les mots que les enfants prononcent ?
Papa,
maman, fleur ou je ne sais pas quoi. Bah, elle, c'est aspirateur. Voilà. Après, il y a un film génial qui est sorti le 17 septembre et qui s'appelle, alors c'est un film géorgien, ça s'appelle Panopticon de Georges Sikariulidze. Voilà, ils ont toujours du mal avec...
Il faut être linguiste au cinéma.
Ben, c'est la richesse du cinéma actuel, c'est qu'on a de tous les pays.
De tous les pays.
Mais alors, on plaint les gens qui doivent dire rapidement les noms des réalisateurs. Alors, Panopticon, c'est comment dire ? Le film est un hommage à ce pays, la Géorgie, et à ses difficultés... Quel est le pays qui n'en a pas, difficultés sociales, avec le gouvernement, etc. Mais c'est surtout un hommage à Michel Foucault. Michel Foucault, le célèbre philosophe français qui avait écrit « Surveiller et punir » et qui avait décortiqué le travail d'un penseur du XVIIe siècle qui avait créé la prison Panopticon, c'est-à-dire que les surveillants pouvaient vous voir de partout.
Oui. Voilà. Avec ce fameux schéma en étoile,
c'est ça. Et Panopticon, lui, c'est adressé à une société où la religion est évidemment très importante en Géorgie, c'est la religion chrétienne. Et en même temps, le père d'ailleurs a décidé d'entrer dans les ordres. Et lui, l'enfant n'a pas de mère, donc il va se retrouver tout seul. Donc, je ne vais pas raconter, parce que d'abord, ça prendrait trop de temps, puis je ne veux pas déflorer ce film qui est un
bijou.
Un bijou.
Je
le recommande en priorité, peut-être tout même avant...
Même avant Valeurs sentimentales.
Bah, ça n'a pas du tout la même chose, mais oui, non.
Donc là, vous nous présentez quatre, vous avez déjà parlé de quatre films, tous les quatre vous plaisent beaucoup.
Et
vous
alors, à divers titres, bien sûr, évidemment. Mais comme je suis un peu censé faire une présentation. Et après, j'ajouterai, si j'ai encore un peu le temps, Moi qui t'aimais, de Diane Curis, qui est sorti le 24 septembre. Alors, Diane Curis, quand on voit Diane Curis, on ne se trompe pas, c'est toujours parfait, c'est très beau, que ce soit au niveau du casting. Elle s'était fait connaître dans les années 80, même un peu avant.
Hein, oui, avec Diabolomante. Moi, c'était un de mes films parce que j'avais aussi à peu près l'âge de ces gamines. Mais oui, donc, j'avais la même blouse. J'avais
c'est le film, moi, qui m'a marqué, en fait, bon, de Diane Curis.
Oui, moi aussi.
Et elle a un énorme talent. Et là, elle se penche sur quelque chose qui n'est pas facile, qui a été adapté au théâtre, mais qui a été adapté au théâtre avec les deux sœurs Seignier, d'ailleurs. Mm-hmm. Le théâtre, c'était le bungalow que partageaient le couple Signoret-Montand à Hollywood et l'autre couple Miller et Monroe et l'histoire d'amour. Et là, elle revient sur la relation d'amour, moi qui t'aimais, entre Simone Signoret et Yves Montand. Après le 1er octobre, c'est-à-dire il y a peu de temps, là, ça vient de sortir, c'est tout frais, tout chaud, c'est la Palme d'Or. Alors là, on ne présente pas Jafar Pahlavi, bien sûr, c'est un grand, grand, grand réalisateur iranien. Et là, c'est un simple accident. Mmh. Donc, il est toujours à l'affiche, bien sûr, il vient à peine de sortir.
Bien sûr.
Donc, je vous dis, foncez, surtout
c'est
si
remarquable.
Vous aimez... C'est remarquable, surtout si vous aimez le cinéma iranien. Parce que moi, je dis toujours que le cinéma iranien me fait penser au néo-réalisme italien.
Oui, vous faites un parallèle.
Ah, complètement, ouais. Avec pratiquement tous les films. Alors, peut-être un peu moins Jafar Pahlavi.
À quel niveau? Au niveau de la...
L'étude de la société, l'étude de la famille. Et puis, c'est des films, en fait, avec très peu de moyens, qui se passent souvent dans un seul lieu. Jafar Pahlavi, il a d'ailleurs montré l'exemple. Et une étude précise de la société, de ses ressorts, de ses travers... Et fatalement, évidemment, la société iranienne, mais il n'y a pas qu'elle hein, qui est mortifère et en crise. Hein.
Alors, vous avez choisi comme deuxième pause musicale La Dernière Séance. C'est très mélancolique. Eddie Mitchell, un grand cinéphile, un grand chanteur.
Qui avait d'ailleurs une émission à la télévision qui s'appelait
La Dernière Séance. Et moi, j'aimais bien cette présentation.
Dans un cinéma.
C'était
le cinéma qui est en banlieue parisienne, d'ailleurs.
Ouais.
Et qui est un cinéma art déco. Eh bien, j'ai aimé ces deux chansons, celle d'Annie Cordy et la sienne, parce qu'Annie Cordy, c'est pétillant, c'est gay, c'est le cinéma des années 50-60. Et là, lui, il avait déjà prophétisé la mort du cinéma en salle, quoi.
Ouais. Donc, les plateformes font beaucoup de mal. Donc, Eddie Mitchell, La Dernière Séance.
La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bâiller. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer, mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. Il finira en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, l'héros que j'aimais, l'entracte est terminé. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés. J'allais rue des solitaires, à l'école de mon à 5 heures j'étais sorti, mon père venait me chercher. On voyait Gary Cooper qui défendait le primé. C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye.
Alors sur Radio Alliance Plus, Jean-Max Maison donc nous fait le plaisir de réaliser cette émission du mois d'octobre en nous présentant des films qui sont déjà sortis ou qui vont sortir. Hein, le dernier dont vous avez parlé, La Palme d'Or est sortie le 1er octobre, donc tout récemment. Donc vous nous avez sélectionné une dizaine de films, il y en a d'autres bien évidemment. Il en reste trois à présenter.
Voilà, alors il en reste trois qui sortent à l'instant où vont sortir. Alors d'abord, il a fait sensation à Cannes parce que des gens l'ont trouvé étrange. Ça s'appelle Nouvelle Vague de Richard Linklater et ça raconte le tournage de À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Mmh. Alors, il y a beaucoup de critiques qui ont dit, mais pourquoi reconstituer ?
Donc,
il a choisi des actrices et des acteurs qui ressemblaient évidemment à Belmondo et à Jean Seberg. C'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi ? Mais moi, je dis pourquoi pas.
Pourquoi pas,
parce que...
C'est un hommage aussi à ce film.
Il y a Zanivicius qui avait fait ça aussi, sur, et c'était très bien. Et là, moi, je trouve que ce qui est surtout intéressant, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est le travail sur l'image, en fait.
Non, je ne l'ai pas vu encore.
Le travail sur une image noir et blanc. Il est presque arrivé à obtenir l'image noir et blanc des années 60, qui est quand même assez inimitable. Hein.
Et pourquoi il a choisi À bout de souffle ? Parce que pour lui, c'est le film de référence ?
C'est l'acte fondateur, d'après lui, de la Nouvelle Vague. Pour moi, non. Il y a d'autres films avant. Mais c'est vrai que Godard, vous savez que ce film... Alors, je ne veux pas dire, pas me permettre de dire que Godard ne savait pas trop faire les films. Il y a plein d'erreurs dans le montage. Hein. Ouais. Il y a des incohérences. En
fait. Mais c'est volontaire, non ? C'est parce
Il a toujours dit que c'était volontaire. Je ne suis pas certain. Hein. Voilà.
Parce que maintenant, c'est vrai, on se targue d'aller voir les erreurs de montage dans les films. Mais il faut tout de même être très vigilant parce que la technique a énormément évolué. Alors qu'à bout de souffle...
Dans À bout de souffle, vous les voyez, surtout la scène de la voiture où il dit « si tu n'aimes pas la ville, si tu n'aimes pas la montagne, si tu n'aimes pas la mer, va te faire foutre ». On voit là qu'il y a des erreurs. Un coup, il est pris trois quarts. On s'en moque en fait.
Parce qu'on est pris dans l'histoire, dans l'image.
Voilà, mais la dernière fois, on se permettait de donner des conseils aux étudiants. Bon, voilà, il y a quand même une logique dans l'écriture des films.
Et quand vous parliez au début de l'émission des critiques, ou dans l'émission précédente des critiques de cinéma, est-ce que c'est leur rôle aussi de repérer toutes les erreurs ? Non.
Enfin, si, mais en fait, moi, c'est pas les critiques que je... D'abord, je n'ai pas de mémoire, donc moi, je suis plutôt pour l'analyse filmique, essayer de comprendre pourquoi on a fait ce film, mais après, je m'en moque de savoir. C'est pas que je méprise les gens qui travaillent, mais vous savez, là, je suis allé au Festival du Péplum, les gens, ils arrivent à savoir quel était le nom de la troisième coiffeuse de Liz Taylor dans Cléopâtre. Bon, oui, mais j'ai pas la mémoire assez grande. Oui. Moi, j'ai pas de mémoire, bon... Après, il y a Journal intime du Liban qui sort le 15 octobre. Voilà.
Donc,
alors là, on est en plein dans l'actualité. Et c'est un très beau film. Alors, de Myriam El Hadj. Et il raconte une famille, un oncle, une femme qui est réalisatrice, chanteuse, etc. Et une militante politique qui se battent contre, alors elles ont du travail, contre la corruption au Liban. Et pour essayer de faire tomber le régime.
Bon,
elles sont courageuses et je me dis des fois, on aurait besoin d'en avoir comme ça aussi dans certains pays d'Europe que je ne nommerai pas. Et je terminerai alors sur un film. Alors, vous m'avez dit que vous connaissiez Dominique Cabrera. Donc
oui,
elle
était venue au Carré d'Art présenter des films et c'est une personne remarquable, intéressante. Et justement, cet été, sur les réseaux sociaux, elle partageait un petit peu son travail, ses étapes. Donc, je suis curieuse de voir...
C'est une militante du cinéma. Et alors là, elle sort le 5 novembre un nouveau film étrange. Déjà, l'idée de le faire, le titre. Alors, le cinquième plan de la jetée. Alors, pour les jeunes, ou même pour certains vieux, bon, de quelle jetée parle-t-elle ? Alors, on parle évidemment de La Jetée, le célèbre film de Chris Marker.
Bien sûr.
Et qui, Chris Marker, a réalisé ce film qui est devenu un film culte. Alors, évidemment, les étudiants en cinéma, vous devez tous l'avoir vu, revu. Vous pouvez même le regarder sur votre téléphone portable. Et donc, elle s'est aperçue qu'au cinquième plan, son cousin... lui a fait remarquer, il dit « mais je me reconnais, j'ai des oreilles décollées et tout ». Alors, je ne sais pas, vous le connaissez ce film, Sylviane.
Oui.
Donc, ça commence, nous sommes à Orly, sur la terrasse où on voit la célèbre chanson donc de Gilbert Bécaud, Le dimanche à Orly, pour voir décoller. Nous sommes dans les années 50, fin 50.
Donc, on allait visiter Orly.
On pouvait monter
sur la terrasse. Je me souviens, moi j'étais enfant, mais mes parents me disaient, on va aller voir
les avions grâce à eux. Voilà, alors le cousin donc de Dominique Rabérera s'est reconnu de dos. L'enfant qui est avec sa famille, il s'est reconnu.
Et c'est le point de départ de ce film.
Elle, ça l'a tellement interloqué qu'elle a dit, je vais faire un film sur, ce cinquième plan. Et c'est bien, je le conseille. Voilà. Ouais. Et donc, ça sort le 5 novembre.
Bon, eh bien écoutez, on se retrouvera au mois de novembre pour d'autres sorties. Je compte sur vous pour hanter les salles obscures.
Merci.
Et vous avez choisi en générique de fin une musique, la musique de Paris, Texas. Et j'ai appris un mot avec vous, un adjectif et un nom. Alors je vous le laisse dire parce que je vais le... Pourquoi avoir choisi cette musique de Ray Cooder?
Parce qu'elle est immarcessible. C'est-à-dire qu'elle ne se fane pas... Et pour moi, c'est un hommage au cinéma parce que quand on l'écoute, alors c'est très beau cette musique. Elle a travaillé aussi, elle a travaillé aussi avec Emir Kusturica.
Et c'est repassé dernièrement à la télévision.
Paris, Texas. Alors pour moi, c'est un des films cultes. Et quand on l'écoute, cette musique, bon, on plane évidemment, c'est une musique planante. Et en même temps, on voit Nastassia Kinski, on voit les images de Paris, Texas, on voit les couleurs, on voit ce désert américain. C'est très beau et c'est le cinéma immarcessible.
Merci à vous. J'ai un mot de plus dans vos vocabulaires. Merci à vous, Jean-Max. Et puis
merci,
rendez-vous
Sylviane.
Pour le mois de novembre et toujours le cinéma. Merci.
Merci beaucoup.